Oui, je vous souhaite la bienvenue ce matin encore une fois pour notre culte. Et on poursuit notre étude dans le livre des Proverbes et sur cette sagesse intemporelle dans un monde en perte de repères. Et ce matin, en continuité avec les semaines précédentes, on va parler d'argent. Hein? Puis je regardais, je ne savais pas quel dessin notre sœur Milly, notre secrétaire, choisirait sur le bulletin. Quand j'ai vu ça, je dis, waouh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, revenir cet après-midi puis avoir sur leur table cette pile de billets de 100 $. Je dis, waouh, elle a bien choisi par rapport au thème de ce matin. Donc, comme on a vu, comme je disais avec Benoît dans les dernières semaines, on va poursuivre notre étude dans le livre des Proverbes. Et Benoît nous a parlé plus essentiellement dans les semaines précédentes des principes par rapport à notre langage, nos paroles. Donc, effectivement, des fois, il mentionnait que c'était mieux de se taire, de réfléchir avant de parler et d'être encourageant aussi dans nos paroles et dans nos relations. Il a parlé de l'agressivité, la colère, comment qu'on pouvait gérer ça, les différends, les conflits et, entre autres, l'amitié, finalement. Donc, on poursuit notre étude cette semaine par rapport à l'argent. Qu'en est-il précisément? Est-ce qu'on peut être sage dans la gestion de notre argent? Est-ce que l'acquisition de la richesse, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Toutes sortes de questions qu'on peut avoir en tant que chrétien, mais même dans le monde séculier, hein? Pas juste les chrétiens. On dit qu'un proverbe ou une maxime là, qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur ». Vous avez sûrement entendu cette maxime-là. Mais par contre, on dit, ouais, mais avoir de l'argent, être un petit peu plus riche, ça amène beaucoup d'avantages, de nombreux avantages. Puis ça devrait normalement nous offrir une meilleure qualité de vie. Donc, une richesse, avoir possédé une certaine richesse, dans le fond, va élargir nos possibilités, notre horizon. Puis ça va souvent aplanir nos sentiers dans bien des difficultés, mais sous certaines conditions. Ce n'est pas nécessairement avoir de l'argent est synonyme de beaux sentiers droits et de bonheur. Ceci dit, il y a plusieurs versets dans le livre des Proverbes qui parlent de l'argent et de la gestion de nos finances personnelles. On doit les interpréter comme des principes guides pour ce monde en perte de repères. Ça fait près de 3 000 ans, hein, que les Proverbes ont été écrits. Puis ce que je peux dire, c'est que même en 2017, les principes par rapport à la gestion de notre argent qu'on retrouve dans les Proverbes sont d'actualité. Moi, j'ai une maîtrise en administration, puis quand je faisais mon étude, je retrouverais vraiment les principes de base. C'est sûr que au niveau de la maîtrise, on a tous les outils financiers de ce monde actuel qui n'étaient pas présents il y a 3 000 ans, mais les principes sont exactement les mêmes qu'il y a 3 000 ans. Et en général, ceux qui suivent ces principes devraient être bénis, avoir beaucoup de bénédictions de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le message principal qu'ils découvrent du livre, c'est que le monde est ordonné selon des principes d'un Dieu créateur. Et ce même, oui, pour des questions de notre langage, des questions de nos relations, mais aussi par rapport à nos finances personnelles. L'Éternel est tout-puissant, il est omniscient, il est parfaitement juste. Il est plus sage que nous. Et il nous fournit ses conseils à travers le livre des Proverbes. Donc, les principes qu'on retrouve vont refléter l'idéal de Dieu dans notre gestion d'argent. Il y a un auteur, peut-être que vous connaissez de nombreux livres chrétiens, probablement plus Benoît, Larry Burkett, qui a écrit plusieurs livres sur les finances, puis qui mentionnait qu'on peut découvrir plus au sujet de l'état spirituel d'une personne en regardant son chéquier qu'en étudiant toute autre facette de leur vie. Malgré tout, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un auteur chrétien. Mais il faut malgré tout, il faut se rappeler que le livre des Proverbes, ce n'est pas juste un livre de formules magiques, hein, qui est gage d'une réussite financière dans nos vies. Parce que malgré tout, bon nombre de gens qui vont tenter de respecter ces principes vont vivre des mensonges dans leur vie, des épreuves, des conflits, même des faillites, des dettes. Mais dans le fond, ce qui ressort comme question principale qu'on devrait se poser, c'est comment peut-on être sage avec notre argent? Il y a six grands principes qu'on va regarder. J'aurais pu les regrouper en trois, en quatre. Je les ai regroupés en six principes qu'on retrouve dans le livre des Proverbes, qui va que si on le met en pratique dans nos vies, on devrait nécessairement, qu'on a de meilleures chances d'avoir du succès financier dans ce monde en perte de repère. Le principe numéro un, et c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est qu'il faut travailler fort pour acquérir notre argent. Le principe numéro deux, c'est qu'il faut être intègre ou honnête dans l'acquisition de notre argent. Le principe numéro trois, c'est toute la question de l'épargne. Principe numéro 4, de contrôler ses dépenses. Pour, dans le principe numéro 5, éviter le piège de l'endettement. Et finalement, un des derniers principes qu'on va voir, et non le moindre, c'est d'être généreux. Prions. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes proverbes. Merci pour cet enseignement qui était inspiré de toi. Oui, Seigneur, je te demande de me donner les bonnes paroles par ton Esprit Saint pour amener cette prédication sur l'argent. C'est un sujet délicat pour certaines familles, pour certaines personnes. Fais en sorte que vous soyez ouverts à cette parole. Et oui, peut-être apprendre ou confirmer certains principes d'une saine gestion financière. Et tout cela au bon nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, on va regarder le principe numéro un, qui est de travailler fort pour acquérir notre argent. Ça paraît peut-être simpliste, mais Proverbes mise beaucoup, et la Bible en général, sur l'importance du travail chez l'être humain. En général, il y a un lien incontournable entre le travail et la prospérité qui en découle. Sauf qu'après la chute avec Adam et Ève, la Bible nous mentionne que le travail sera maintenant une chose pénible. Et de façon générale, la prospérité sera une chose plus difficile à atteindre. Quand on regarde dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 17 et 19, l'Éternel dit enfin à l'homme, « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer de la nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. » Donc, on voit que le travail, c'est pas synonyme de quelque chose d'aisé et de facile. Aujourd'hui, pour la majorité des gens, si j'actualise en 2017, le travail est synonyme d'effort et pour la majorité de désagréments. Je vais prendre un exemple caricatural que beaucoup de personnes doivent vivre, chrétiens ou non, en 2017. Prenons une personne qui vit en banlieue et qui travaille au centre-ville de Montréal. Donc, sa journée commence tôt, le cadran sonne à 5 heures du matin, zing, oh, t'es obligé de se lever, il était si bien dans son lit douillet. Mais là, il faut que je me lève, prends une douche, déjeune rapidement, prends la voiture, s'en va au travail, 90 minutes pris dans le trafic. Traverser les ponts en banlieue, ce n'est pas évident à l'heure des travailleurs. Puis là, il arrive en retard, naturellement, au travail. Il y avait un accident sur la route. Puis là, le patron, il le reçoit avec des commentaires désobligeants. Encore en retard, là. Tu pourrais te lever plus tôt, voyons, qu'est-ce que tu fais. Ouf! Il dit, avoir su, j'aurais dû écouter la circulation pour ne pas venir travailler ce matin. Mais là, il y a un contrat à finir pour 18 heures ce soir, puis il y a beaucoup de pression, du stress qui va avec ça. Pas de dîner, pas de pause. Ouf, pas facile, la vie. Puis enfin, il arrive à temps, 18 heures, son contrat est terminé, il a réussi la journée. Ouf, je m'en retourne à la maison, enfin. Manque une autre 90 minutes dans le trafic. Pas évident. Puis finalement, il arrive à la maison, 19h30, sa femme le reçoit avec pas trop de bonne humeur. Là, tu n'es jamais là pour le souper, tu n'es jamais là pour faire le devoir des enfants, qu'est-ce que tu fais, voyons. Et On peut comprendre très clairement aujourd'hui, en 2017, la signification du dernier verset de 3:19 Genèse. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est encore véridique. Ce n'est pas la majorité, mais pour plusieurs personnes, c'est une réalité de la vie quotidienne. Et dans le livre des Proverbes aussi, il y a des avertissements par rapport à la paresse. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il est marqué que la paresse va mener inévitablement à la ruine financière. Dans Proverbes 6, versets 6 à 11, on a un exemple dans la nature, des fourmis. On en a plein de fourmis, on les voit sur les trottoirs, dans notre cour, dans nos maisons quelquefois. Et dans le Proverbe, chapitre 6, c'est marqué « Toi qui es paresseux ». J'espère que vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. « Va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été, au temps de la récolte. Elle fait des provisions. Et toi, paresseux, combien de temps resteras-tu couché? Quand cesseras-tu de dormir? Tu veux prendre un peu de sommeil et t'assoupir un petit moment? Tu restes un peu étendu en te croisant les bras? Pendant ce temps, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Donc, ce que je mentionnais ici, c'est que je pense qu'il faut faire une distinction entre un paresseux puis une personne qui est inapte au travail. Les personnes inaptes au travail ne sont pas des paresseux. Il y a vraiment une grande distinction à faire. Le paresseux, c'est une personne qui a les capacités de faire un emploi, mais qui préfère se reposer plutôt que de travailler. Et la fin de ce livre, selon les Proverbes, pour le paresseux, c'est la pauvreté et la misère. Par contre, au moins, il y a un penchant, oui, le travail est pénible, mais le travail nous amène des bénédictions. Et il y en a plusieurs qu'on peut voir dans le livre des Proverbes et Ecclésiaste aussi. Je vais les citer une après l'autre. Dans Proverbes 10:4, mentionne que des mains nonchalantes attirent la pauvreté. Donc, on parle encore du paresseux. Mais des mains actives procurent la richesse. Dans Proverbes 28:19, mentionne que le travailleur profite des fruits de son travail, car celui qui cultive son champ a beaucoup de pain. Et dans Ecclésiaste 2:10 et 5:11a, mentionne que le travail crée un sentiment d'accomplissement chez la personne. Et ça, peu importe le revenu gagné, qu'on ait un gros salaire ou un plus petit salaire, un travail donne ce sentiment d'accomplissement. Dans Ecclésiaste 2:10, mon cœur s'est réjoui de tout mon travail. Et c'est là la part que j'ai eue de tout mon travail. Et dans Ecclésiaste 5:11a, le travailleur dort d'un bon sommeil, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Donc oui, des fois le stress peut faire en sorte qu'on dort mal, mais un travailleur qui fait bien son travail se repose le soir venu. Là, c'est séculier. Le psychologue du travail, Olivier Audibert, mentionne que le travail a un rôle fondamental chez l'homme. Et il utilise la pyramide des besoins de Maslow. Ceux qui sont dans le domaine de la santé connaissent la pyramide des besoins de Maslow. Il y a 5 gros besoins fondamentaux. Et oui, il y a premièrement les besoins physiologiques de base et les besoins de sécurité. Effectivement, le travail, les revenus découlant du travail nous permet de payer notre nourriture, de faire notre épicerie. C'est sûr qu'il y a 3000 ans, ce n'était pas la même chose, mais aujourd'hui, actualité, on peut aller à l'épicerie du coin, au dépanneur du coin, et avec notre argent, faire notre épicerie, permet de payer notre loyer, d'avoir un toit, de vivre en sécurité sous notre toit, d'avoir des vêtements. Dans 1 Timothée, comme tu disais tantôt, on parlait d'avoir les vêtements et la nourriture. Donc, ça nous permet d'avoir ces éléments, ces besoins fondamentaux de base. Mais un travail bien fait permet aussi d'obtenir la reconnaissance de la part de nos collègues. Cette reconnaissance-là d'un travail bien fait va augmenter notre estime de soi et avoir un sentiment qu'on s'accomplit, d'accomplissement. Ce n'est pas chrétien, mais c'est quand même, oui, effectivement, le travail peut amener ce sentiment de reconnaissance, d'estime et de réalisation de soi. Dans le fond, c'est confirmé par les deux versets d'Ecclésiaste que je viens de lire. Parce qu'à ce moment-là, nos cœurs vont se réjouir de ce travail bien fait et vont pouvoir dormir d'un bon sommeil. Étant étudiant, j'ai consacré de nombreux efforts pour obtenir mon diplôme comme infirmier clinicien. Je suis infirmier, pour ceux qui ne le savent pas. Et que de nuits blanches, ceux qui sont étudiants encore aujourd'hui, les veilles d'examen, des fins de semaine complètes à compléter et à rédiger des travaux scolaires. Mais quelle joie quand on a un bon résultat. Quelle joie quand j'ai eu mon diplôme d'infirmier. J'étais fier. Je me sentais accompli dans l'obtention de son diplôme. Puis j'ai travaillé 26 ans à l'hôpital Rivière-des-Prairies. J'ai soigné des enfants atteints de troubles mentaux. Puis je vous avoue qu'il y a des journées que c'était pénible. Ce n'était pas toujours facile de voir cette souffrance humaine. Mais j'ai eu beaucoup de reconnaissance. J'étais avec les enfants là, en pédopsychiatrie. Donc, souvent, je travaillais plus avec les parents qu'avec les enfants. Mais j'ai eu beaucoup de reconnaissance des parents quant aux soins qu'on pouvait donner à leurs enfants, que leurs enfants puissent aller mieux, soient moins anxieux. J'étais à la clinique des troubles anxieux. Puis ça me donnait une satisfaction par rapport à mon travail. Je me sentais bien. Puis le soir venu, en général, je dormais très bien sur mes deux oreilles. Je n'ai pas de problème d'insomnie, avec un sentiment de devoir bien accompli. Actuellement, j'ai pris ma retraite de l'hôpital, mais j'enseigne à l'Université de Montréal, justement, les infirmières en santé mentale. Des fois, la préparation d'un cours, c'est exigeant, ça demande du temps. Mais par contre, mon cœur se réjouit quand je vois que les élèves sont intéressés au cours, qu'ils réussissent le cours pour la majorité d'entre eux. Et parfois, certains élèves viennent me voir quand le cours est complètement terminé. Et ils me disent que j'ai pu leur transmettre une partie de mon savoir avec passion. Les élèves me disent ça, que je suis passionné par rapport, j'aime mon travail, j'aime la santé mentale. Et que même je faisais une différence dans leur choix de carrière. Et qu'ils sélectionnaient en soins infirmiers, on peut aller vraiment dans n'importe quel domaine, en médecine, chirurgie, obstétrique, etc. Et certains ont choisi la santé mentale, entre autres, suite à mon cours. Que de fierté suite à ça d'un travail bien accompli. Le principe numéro 2. Oui, quand je parle d'un principe de travail bien accompli, il faut être intègre et honnête pour bien accomplir son travail. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu, dans les Proverbes, qui mentionnent qu'il faut acquérir nos richesses, nos revenus, d'une manière intègre. Dans le fond, ça nous donne une éthique personnelle quant à l'acquisition de notre argent, de nos biens. J'ai trois versets ici qui mentionnent, dans le fond, qu'il ne faut pas avoir trop d'affection pour l'argent. Dans 1 Timothée, qu'on a lu tantôt, c'est mentionné entre autres. Mais dans Proverbes 11, 28a, « Celui qui se confie en ses richesses dépérit. » Dans Proverbes 22, 1, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et l'argent. Donc, le montant d'argent, ce n'est pas important. C'est vraiment avoir beaucoup d'argent, c'est vraiment l'estime des autres et la bonne réputation. Dans 1 Timothée 6, 10, que mon frère Benoît a lu tantôt, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Effectivement, trop aimer l'argent est la racine de toutes sortes de maux. De nombreuses personnes ont comme ambition de réussir au niveau professionnel, dans leur travail. Il y en a qui c'est pour avoir plus de pouvoir, d'autres c'est du prestige, puis d'autres c'est pour avoir un bon compte en banque, avoir beaucoup d'argent. Certaines de ces personnes ont l'impression, s'ils ont du pouvoir, du prestige, d'avoir accompli quelque chose de grandiose dans leur vie. Même il est naturel pour certains de souhaiter une situation meilleure. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cela reste compatible comme chrétiens, avec notre attachement à Dieu. Peu importe notre échelle sociale, qu'on ait peu ou beaucoup d'argent, l'essentiel est de demeurer avec Dieu. Pendant quelques années, le Seigneur m'a donné la bénédiction d'avoir deux emplois simultanément. Je sais qu'il y en a, on prie souvent pour ceux qui n'ont pas d'emploi, que le Seigneur puisse leur trouver du travail. Encore tantôt, voyons, je voulais prier pour ceux qui n'ont pas de travail. Et moi, c'est le contraire. J'ai eu beaucoup de bénédictions pour avoir de nombreux emplois, puis on m'en offre, puis on m'en offre. Mais je sais du moins ce que je croyais que c'était une bénédiction. Je travaillais à temps plein à Rivière-de-Prairie, puis j'enseignais les cours de santé mentale à l'université. Puis cela m'a amené beaucoup de stress, parce que j'avais à gérer puis à marchander deux horaires à la fois, deux horaires de travail. Puis je devais négocier mes congés pour enseigner à mon hôpital, puis c'était pas toujours évident. Ça m'a causé beaucoup de tourments, comme le mentionne 1 Timothée 6:10. Puis aussi, il y a juste 24 heures dans une journée. On peut pas malheureusement en rajouter une 25e heure. Donc je me suis rendu à l'évidence que cumuler deux emplois entamait beaucoup mon temps de communion avec le Seigneur. Puis j'en ai parlé avec mon frère Benoît, il est au courant, quand je cumulais mon double emploi. Je lisais moins ma Bible, je priais moins, et souvent même, je ne venais pas les dimanches. Quand j'étais en période de double emploi, je ne venais pas au culte le dimanche, par surcharge de travail. Donc, j'ai demandé souvent pardon à Dieu pour ce comportement. Je priais Jésus de trouver une solution, de me diriger. Mais dans le fond, même dans mes discussions avec Benoît, j'étais pas prêt à laisser un des deux emplois. Parce que j'aime beaucoup la sécurité d'emploi que m'apportait mon travail à l'hôpital, puis j'aime beaucoup l'enseignement à l'université. Mais Dieu a mis sur mon chemin un nouveau patron suite à la restructuration, on appelle la réforme Barrette, avec les CIUS. Donc il y a eu une grosse restructuration, donc je me suis retrouvé avec une nouvelle culture organisationnelle et un nouveau patron, beaucoup moins accommodant. Et qui m'a dit un matin, quand j'ai demandé un congé sans solde pour enseignement, c'est terminé les accommodements. Tu choisis l'un ou l'autre. Écoutez, ça a été probablement la journée la plus stressante de ma vie. D'avoir à choisir, qu'est-ce que je fais? Ma femme pourrait en parler. J'en ai même perdu connaissance. Là, j'ai eu une cicatrice sur le front tellement j'ai vécu des journées stressantes par rapport à ça. Beaucoup de tourments. Hein? Donc, j'ai vécu le 1 Timothée 6:10. Mais finalement, dans cette épreuve, Dieu m'a béni. Il a permis que je prenne ma retraite de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Oui, je continue à enseigner, mais je suis plus pris. Je ne suis pas autant pris par mon double emploi. Ce qui fait en sorte que ma relation avec le Seigneur est moins amputée en temps. Par contre, je dois prier encore parce que des fois, je ne suis pas trop discipliné dans mon culte personnel au quotidien, malgré le simple emploi, mais ça va quand même mieux. Je remercie le Seigneur. Bon, d'autres principes par rapport à l'intégrité, rapidement. Il faut éviter la tromperie et la ruse. Proverbe 16:8, mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires louches. Dans Proverbe 17:23, les gens malhonnêtes acceptent des cadeaux offerts pour dévier le cours de la justice. Quand je disais ces deux versets-là, bien, je pensais à l'actualité. Notre actualité au Québec. La commission Charbonneau, avec les enveloppes brunes distribuées, avec la collusion dans le monde de la construction. Je pensais aussi à l'ancien maire de Laval, M. Vaillancourt, qui a admis sa culpabilité parce qu'il acceptait de nombreux pots de vin pour octroyer des contrats de construction à la ville de Laval. Mais ça, on peut se dire, oh, ça ne me touche pas, ça, c'est pas moi. On n'est pas des criminels. Je ne fais pas partie de ce groupe de personnes qui escroquent les gens pour des pots de vin ou par leur pot de vin pour en tirer profit ultérieurement. Mais même si on ne fait pas partie de ce groupe de personnes malhonnêtes, se peut-il qu'un manque d'intégrité dans l'acquisition de nos biens soit moins subtil? Là, je fais référence à tout le travail au noir, très fréquent dans le métier de la construction, où les gens offrent leur service sans émettre de facture pour éviter de payer de l'impôt. Hein. Donc, c'est certain que Moi, personnellement, je ne peux pas être tenté d'offrir des services au travail au noir parce que je suis zéro manuellement, je suis zéro en construction. Donc, je n'ai pas de tentation d'offrir des services au noir. Mais par contre, même comme chrétien, on peut être tenté d'accepter de tels services. On peut se faire de faux raisonnements. C'est un plombier qui vient à la maison faire une réparation. Un électricien, peu importe le corps de métier. Hein, on est serré ce mois-ci. Ouf, vaut mieux avoir le 100 $ dans nos poches que ce soit le gouvernement. De toute façon, je paye assez de taxes. Donc, on peut même devenir complice du travail au noir. Il faut faire attention à notre intégrité face à ça. Il y a plusieurs années même, je ne me rappelle plus quel corps de métier qui était venu, puis paye-moi cash, je ne te ferai pas de facture, puis... Je me suis laissé tenter. Oui, c'est vrai. J'ai fait ce faux raisonnement-là. Mais après, j'ai demandé pardon à Dieu et maintenant, c'est clair. Pour moi, le travail au noir, c'est terminé d'accepter que des gens fassent du travail au noir, peu importe. Il faut éviter le mensonge. Proverbe 21:6. S'efforcer d'acquérir la richesse par le mensonge, c'est obtenir de la fumée de la part des gens qui cherchent la mort. Verset puissant. Et ça me faisait penser, le mensonge, à tous ceux qui font délibérément des fausses déclarations dans leur rapport d'impôt, que ce soit au fédéral et au provincial. C'est sûr que la fraude fiscale ou l'évasion fiscale peut amener à court terme un avantage monétaire, mais il y a de fortes chances que le gouvernement vous rattrape un jour ou l'autre. Dans le dernier budget fédéral, l'Agence du revenu du Canada a reçu 444 millions de dollars pour embaucher davantage de vérificateurs financiers et de spécialistes afin de combattre la fraude et l'évasion fiscale. Elle veut faire ainsi passer de 600 à 3000 le nombre d'examens visant des contribuables à haut risque chaque année afin de récupérer près d'un demi-milliard de dollars de plus. Donc ainsi, ça rejoint Proverbe 27 qui dit « qu'au premier abord, la nourriture volée est un délice. Mais ensuite, c'est du gravier plein la bouche. » Donc, surtout quand le fisc vous rattrape, ou rattrape ceux qui font justement des fausses déclarations fiscales, je pense que ces personnes-là, avec l'agent du fisc dans leur bureau, vont avoir un goût amer dans la bouche. Donc, Colossiens 3:17 nous apprend que tout ce que l'on fait, incluant un travail intègre, doit l'être au nom de Jésus. Tout ce que vous faites en parole ou en action, cela inclut le travail naturellement, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. C'est ainsi que je m'appuie sur l'œuvre rédemptrice de Christ pour poursuivre l'acquisition de la richesse d'une manière qui est intègre, honnête. C'est en lui que je trouve la grâce d'agir ainsi, d'une manière juste à ses yeux, qui lui fait honneur et qui reflète sa nature. Donc, Proverbe, donc, nous lance ce défi d'acquérir la sagesse. Dans le fond, est plus important que d'acquérir la richesse. Voici pour les deux premiers principes autour du travail. Donc, il faut travailler d'une façon honnête et intègre pour gagner nos biens. L'épargne. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur l'épargne? Un journaliste un jour a demandé à John D. Rockefeller, un homme riche et ambitieux, combien d'argent cela lui prendrait pour trouver le contentement dans sa fortune. L'homme riche réfléchit un moment et avoua 1 $ de plus. Tout excessif que nous puissions trouver sa réponse, est-ce qu'on n'a pas pensé un moment ou l'autre comme lui? Quel que soit notre revenu, nous nous disons, si seulement j'en avais un peu plus, alors nous pourrions respirer un peu mieux, naturellement. Mais Rockefeller, malgré sa richesse, un des hommes les plus riches au monde à son époque, nous prouve bien que ce n'est pas le cas, hein, avec sa réponse 1 $ de plus. La vérité est que le montant d'argent que nous possédons ne peut pas satisfaire les désirs de notre cœur. Donc, il faut vraiment souligner notre appel à être sage avec l'argent. On doit apprendre dans ces principes le contentement. Sans quoi, nous pourrions faire de l'épargne une autre idole qui nous détourne de notre relation avec Dieu. Dans 1 Timothée, qu'on a lu tantôt, 6, verset 6-8, on peut lire, « Certes, la foi en Dieu est une grande richesse si l'on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela doit nous suffire. » Donc, la Bible, la parole de Dieu nous enseigne donc le contentement avec ce que l'on a. Et même que seule la nourriture et les vêtements suffisent. Pourquoi? Parce qu'on a été conçu pour quelque chose de plus grand que l'épargne ou l'acquisition de richesses, que d'avoir plusieurs effets personnels, des biens. Nous avons été créés pour connaître Dieu. Quand je fais de l'Éternel mon plus grand désir, il vient combler ce dont j'ai besoin. Mais alors, pourquoi épargner? La question semble un peu bête, mais vaut la peine d'être posée. Là, je sors des Statistiques Canada. C'est, voyons, je pense qu'il est ici. Oui, Jean-Sébastien. Ah, il est sorti, bon. Selon ça, il me reprendrait si c'est vrai ou pas. Selon Statistique Canada, malheureusement, 42% des Canadiens n'ont pas les moyens de mettre un sou de côté. Donc, compte tenu de leurs revenus, c'est 4 Canadiens sur 10 n'ont pas ces moyens. Par contre, il y en a 58% des Canadiens ont les moyens d'épargner. Et ce qu'on mentionne, c'est que l'épargne en vue des vacances est l'objectif le plus courant. 43% des Canadiens épargnent aussi pour leur retraite et 40% pour les imprévus. C'est sûr, dans la parole de Dieu, je n'ai pas vu l'épargne pour la retraite. À cette époque-là, je pense qu'il n'y avait pas comme telle une retraite des REER, des outils financiers comme on a aujourd'hui. Par contre, le livre des Proverbes mentionne à plusieurs reprises, et dans la Bible en général, qu'épargner est sage, car le futur est la chose la plus incertaine qui existe. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Hein. C'est dans cette perspective que le livre des Proverbes nous rappelle de ne pas supposer que les choses resteront toujours comme elles le sont. En d'autres mots, celui qui est sage sait prévoir pour les imprévus. Donc, dans Proverbes 6-8, si on fait toujours référence aux fourmis tantôt que j'ai lues, « Pourtant, les fourmis amassent de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elles font des provisions. » Donc, on voit que ce verset, si on le met dans le contexte d'aujourd'hui, réfère directement à la notion d'épargne. Mais quelle quantité de provisions doit-on amasser? Si je prends les mêmes mots que dans le Proverbe 6-8. Encore là, je l'ai vu dans mes études, mais j'ai trouvé un article selon le mouvement Desjardins, on va y aller en 2017, il s'avère prévoyant d'épargner pour un fonds d'épargne, si nous en avons les moyens naturellement, afin de faire face aux imprévus. Donc, ce coussin peut s'avérer très utile si on perd notre emploi, par exemple. Il vous permet aussi de régler des dépenses courantes sans recourir à l'endettement. C'est quoi le montant idéal? Donc, selon le mouvement Desjardins, ils disent qu'on devrait pouvoir combler nos dépenses mensuelles pendant au moins 3 mois. Et cet argent doit être facilement encaissable pour pouvoir l'utiliser aisément pour parer aux imprévus. Ainsi, dès la semaine passée, donc je fais partie des 58% qui peut épargner, qui a le revenu qui peut faire en sorte que je puisse épargner. Et j'ai effectivement fait un fonds d'urgence. Et la semaine dernière, mon toit a coulé. Donc, j'ai dû faire venir rapidement, faire réparer mon toit. Et j'ai pu faire payer le couvreur avec le fonds d'urgence, sans avoir à recourir à un plan de financement ou à l'endettement. Donc, oui, ça peut être utile d'avoir ce fonds d'urgence pour faire face aux imprévus. Il faut accumuler aussi notre épargne de façon disciplinée. Proverbe 13:11, « La richesse trop vite acquise disparaît vite. Celle qu'on amasse petit à petit ne cesse de grandir. » Donc, je pense qu'il faut faut être réaliste aussi dans nos projets d'épargne. Proverbe 20:21, « Celui qui commence trop rapidement à amasser une fortune n'aura pas lieu de s'en féliciter par la suite. Donc, dans le fond, c'est une mise en garde que la parole de Dieu nous donne ici par rapport à l'accumulation trop rapide de richesses, parce que ça peut être un symptôme de notre amour pour l'argent. Dans le fond, on doit rechercher davantage les richesses spirituelles. Proverbe 28:10, un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Proverbe 11:4 mentionne, au jour du jugement, la richesse est inutile. Seule la pratique de la justice préserve de la mort. Donc, qu'est-ce que cette mise en garde peut bien changer dans ma vie au quotidien? Ça veut dire que la prochaine fois que je devrais prendre une décision financière quant à mon épargne, il serait sage de se demander si je suis motivé simplement par la richesse et l'amour de l'argent plutôt que par des richesses, acquérir des richesses spirituelles dans ma vie ou la vie de ma famille, de nos proches. Ça fait le tour par rapport à l'épargne. Le principe numéro 4, contrôler ses dépenses. Celui qui est sage au travers de disciplines personnelles évite de se laisser emporter par des décisions spontanées et réfléchies quant à ses dépenses. Et le livre des Proverbes en parle. Un des principes, des conseils, c'est d'établir à l'avance tes priorités. Proverbes 14:15. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit. L'homme prudent regarde où il met les pieds. Et ça, c'est bon pour nos finances, pour nos dépenses. Il y a un conseil d'établir un budget et de le respecter. C'est d'actualité, on entend parler beaucoup des budgets hein, aujourd'hui. Proverbe 21:5. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Donc, ces deux versets nous parlent d'un homme prudent qui s'applique à élaborer des plans selon ses priorités. Faire un budget est l'un de ses plans, particulièrement si on souhaite épargner. C'est comme ça qu'on peut voir si on a assez d'argent, assez de revenus pour pouvoir épargner. Et toutefois, c'est une démarche qui demande organisation et discipline. Mais elle en vaut la peine parce qu'elle vous donne un vrai contrôle sur vos finances. Elle devrait, en tout cas. Faire votre budget va vous permettre de savoir exactement ce qui entre dans vos poches et ce qui en sort. Vous aurez ainsi la satisfaction d'avoir en main un portrait clair de vos revenus et de vos dépenses. Moi, pour ma part, je fais cet exercice. Moi, je le fais aux deux semaines parce que quand je travaille, je suis payé aux deux semaines. Et je sais à ce moment-là de combien d'argent qui va rentrer aux deux semaines, combien d'argent je dispose, et ainsi je peux planifier mes dépenses. Oui, il y a des dépenses fixes comme le loyer, l'épicerie. Mais il y a des dépenses aussi qui sont qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire. Cet exercice s'applique également à l'Église. Ainsi, le comité des responsables, dont fait partie Benoît, Emmanuel et moi-même, qui sont ici aujourd'hui, une fois par année, on va parler de nos priorités pour l'année à venir pour l'Église. Quelles sont nos priorités? Puis en fonction de celles-ci, on va faire un budget. En prévoyant, en estimant les revenus disponibles et les dépenses qu'on va faire en fonction des priorités retenues. Et vous connaissez cet exercice parce qu'on vous présente une fois par année pour vote notre budget. C'est un exercice de sagesse, selon le livre des Proverbes. Temps personnel, familial, pour ceux qui ont des entreprises, entre autres, mais aussi pour l'Église. Méfie-toi de dépenser simplement pour te faire plaisir. Pas évident. Ça. Proverbe 21:17. Celui qui aime les plaisirs connaîtra le besoin. L'amateur de vin et de bonne chère ne deviendra jamais riche. Le sage refuse de dépenser de l'argent qu'il n'a pas. Le sage refuse d'acquérir les choses dont il n'a pas besoin. Le sage agit de façon réfléchie. Il planifie ses dépenses selon les priorités qui lui sont importantes. Il est important aussi de considérer les motivations du cœur avant de dépenser son argent. Beaucoup d'achats, même pour les chrétiens, pour moi-même également, peuvent nous laisser une mauvaise impression qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer sa pertinence ou que le timing n'était pas bon pour faire cette dépense. Pierre-Yves McSween, peut-être vous le connaissez, comptable, enseignant et chroniqueur économique au FM 98.5, celui-là je l'entends souvent, nous invite à la prudence, tant dans les petites dépenses que dans les grandes. Lui, il mentionne que la question à se poser avant de faire une dépense serait « En avez-vous vraiment besoin? » « En avez-vous vraiment besoin? » Effectivement, consommer de façon intelligente, c'est se poser des bonnes questions avant de faire l'acquisition d'un bien. C'est sûr qu'on est sous l'influence des vendeurs, des publicistes qui essayent de nous convaincre que leurs produits sont indispensables. Nous, à titre de consommateurs avertis, notre rôle, c'est de prendre des décisions éclairées. Par exemple, je sais que Benoît en a parlé dans ce message, qu'il nous faut absolument la dernière version du iPhone qui vient de sortir, ou le dernier véhicule utilitaire sport de l'année, que la télé, les publicités à la télévision nous mentionnent que c'est le secret du bonheur, que de posséder une telle voiture de l'année. Comme chrétien, voici quelques pistes de réflexion supplémentaires à se poser au sujet de nos dépenses personnelles. Et les réponses que vous trouveriez en lien avec ces questions devraient vous donner une direction à suivre pour vous et votre famille. Première question. Est-ce un achat motivé par un besoin ou un désir? Est-ce un besoin qui doit réellement être adressé immédiatement ou peut-on différer cette dépense? Deuxième question, on va voir tous ensemble ce pôle-là. La deuxième série de questions, est-ce un besoin que je peux confier à Dieu dans la prière? Et est-ce que cette dépense fait partie de ton adoration pour l'Éternel? La réponse à ces questions nous en diront beaucoup sur les motivations de votre cœur. Cinquième point, viser à être libre de l'endettement. Selon Statistique Canada, encore, la dette totale des ménages sur le marché du crédit a atteint 167,3 % des revenus disponibles en 2016. Ça veut dire que pour chaque dollar de revenu que vous avez dans vos poches, les Canadiens ont contracté une dette de 1,67 $ sur le marché du crédit. Alimenté par les hypothèques et la faiblesse des taux d'intérêt, la dette des ménages a grimpé de façon soutenue au cours des dernières années. Plusieurs économistes ont soulevé des inquiétudes par rapport à la dette des ménages, la considérant comme un risque clé pour l'économie. Même si les taux d'intérêt sont faibles depuis des années, et on réduit le coût des emprunts des Canadiens, là, je suis toujours avec Statistique Canada, certains des économistes sont inquiets de ce qui pourrait se produire lorsque les taux continueront à grimper. On a eu une hausse de 0,25 % là, ce mois-ci. Ou s'il y aurait encore un choc économique qui entraînerait des pertes d'emplois importantes au pays. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on voit que l'endettement est synonyme de servitude. Dans le fond, on se rend serviteur de l'autre par notre endettement. Et en général, une servitude ou cet endettement n'était pas considéré comme une bénédiction de l'Éternel. Dans le livre du Deutéronome, on voit entre autres les conséquences reliées à la servitude du peuple d'Israël face à un peuple étranger. C'est dans Deutéronome 28, versets 43-44. Les étrangers qui s'ajouteront parmi vous augmenteront de plus en plus leur puissance, tandis que vous perdrez progressivement la vôtre, en faisant référence au peuple d'Israël. Ce sont eux, les étrangers, qui vous prêteront de l'argent, et non plus vous qui leur en prêterez. Les étrangers seront vos maîtres, et vous serez à leur service. Aujourd'hui, c'est certain, ce n'est pas les étrangers. En 2017, on n'est pas sous la servitude d'étrangers. Ce sont souvent les banques et les institutions de crédit qui nous prête de l'argent. Il faut faire attention que ce ne soit pas eux qui prennent le contrôle de nos finances par un endettement trop important que l'on serait incapable de rembourser. Et ça, c'est la parole de Dieu aussi est claire par rapport à ça. Il faut éviter la servitude de l'endettement. Proverbe 22:7. Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Romains 13:8. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. N'ayez de dette envers personne. Moi, j'ai une règle. On parlait de règle d'or hier, c'est pas la règle d'or, mais j'ai comme règle toujours de payer en totalité le solde de ma carte de crédit. Le crédit est facile aujourd'hui. Hein? Je reçois la publicité quasiment toutes les semaines par la poste là, pour avoir des nouvelles cartes de crédit. Ou à chaque magasin, ils vous offrent une carte de crédit de leur magasin à des taux exorbitants d'intérêt, 20-30% selon les cartes de crédit. Mais je me discipline à toujours payer le solde et de ne jamais payer un sou à mes créditeurs, à mes créanciers. Donc, c'est une règle. La journée que j'en serai plus capable, mon beau-frère fait cet exercice-là. Donc, mon beau-frère, lui, comme discipline, il a décidé de ne pas avoir de carte de crédit. Donc, il manquait de rigueur à ce niveau-là. Il était pris vraiment avec des paiements. Je n'ai pas les détails. Mais ils ont décidé de payer cash, comptant, ou avec une carte de débit. Ça revient à du comptant. Dans le fond, c'est direct, l'argent est directement pris dans votre compte. Donc, comme ça, il ne deviendra jamais sous la servitude de l'endettement des Mastercard, Visa, etc., des fameuses cartes de crédit. Mais si tu n'as pas le choix d'emprunter, ça peut arriver. Une dépense imprévue, entre autres, puis on n'a pas de fonds d'urgence. Il faut établir un plan qui t'amène à être financièrement libre le plus vite possible. Proverbe 6:3-5. Si tu te trouves au pouvoir d'un créancier, Mastercard, mettons, il faut t'en libérer. Il faut t'en libérer. Va le voir, supplie-le, insiste pour te dégager. Ça, aujourd'hui, ça ne marchera peut-être pas trop, là. Mais ne t'accorde aucun repos et ne ferme pas l'œil avant d'y être parvenu. Rends-toi libre. Donc, il faut vraiment se libérer de nos dettes le plus rapidement possible. C'est un principe de la parole de Dieu. Aussi, il faut éviter de s'engager pour les dettes d'autrui. Proverbe 22:6, ne te rends pas responsable des dettes d'autrui en tapant dans la main de quelqu'un. Si tu n'as pas de quoi payer, on te retirera même ton propre lit. Donc, il ne faut vraiment pas s'engager ou cautionner les dettes d'autrui. Donc, le sage évite de se placer dans une situation de servitude. Dieu, pour sa part, nous a créés libres pour le servir. Et cette liberté est un aspect fondamental de notre vie chrétienne. Le dernier principe, sois généreux. Le livre des Proverbes décrit le sage comme étant, entre autres, une personne généreuse. Cette caractéristique de la sagesse découle d'une reconnaissance que nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu du Seigneur. Tout nous vient de Dieu, et le sage reconnaît que Dieu est l'auteur de ses bénédictions. Entre autres, dans son travail et dans les revenus qu'il gagne avec son travail. Et dans les Proverbes, on voit que Dieu fait prospérer celui qui est généreux. Proverbe 11:25. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Dans Proverbe 28:27, l'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Mais celui qui ferme les yeux sur leur misère sera maudit par beaucoup. Donc, quelle belle promesse ici qu'on a reliée à notre générosité. Et il ne faut pas hésiter à être généreux. Le modèle biblique est clair. Vaut mieux donner que de recevoir. Car Dieu honore celui qui l'honore. Proverbe 3, 9, 10. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Ça a l'air un peu contradictoire, mais non. Quand on honore le Seigneur en lui offrant une part de nos revenus, en lui donnant le meilleur de nos récoltes, nos greniers vont être remplis de blé. 2 Corinthiens 9, 6, 7 complète. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je pense que vous reconnaissez ce verset. Hein? C'est celui qui est écrit sur nos enveloppes d'offrande. Hein? Dieu aime celui qui donne avec joie. Si on pourrait passer juste sur la générosité, un message complet d'une heure, tellement que c'est essentiel d'être généreux et d'honorer notre Dieu en lui remettant une part de nos revenus, pour ceux qui en ont les moyens, mais aussi par notre service envers Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, ça peut être par notre service, en faisant de l'évangélisation dans les parcs, en allant voir un frère dans le besoin, en exhortant un frère. Dans le fond, tous les lulas, les uns les autres, l'hospitalité, font partie de notre générosité. Le livre des Proverbes nous donne toutefois des avertissements quant à notre générosité. Il ne faut pas être bonasse non plus, puis faire l'innocent dans notre générosité. Hein? Par exemple, dans ta générosité, méfie-toi de donner aux paresseux. C'est la Bible qui dit ça. Proverbe 24. Un paysan trop paresseux pour labourer à l'automne ne trouve rien à récolter à l'époque de la moisson. Donc, celui qui est pauvre à cause de sa paresse, je ne parle pas de ceux qui sont inaptes au travail, mais vraiment, celui qui est pauvre à cause de sa paresse devrait apprendre à travailler au lieu de profiter de la générosité de ceux qui ont pitié de lui. Donc, il faut vraiment faire attention dans le fond, face à ça. On en parle dans la gestion de notre fonds de secours, par exemple. On a ce regard là-dessus. Ou le contraire, dans ta générosité, méfie-toi de donner aux riches. Pour moi, ils n'en ont peut-être pas de besoin, mais car il ne sera pas nécessairement enclin à te rendre la faveur, surtout s'il est lui-même motivé par le gain financier. Proverbe 22, 16, celui qui donne à un riche ne fait que s'appauvrir lui-même. Donc, pour résumer les 6 principes que la sagesse de l'Éternel nous appelle à mettre en pratique dans nos vies, pour avoir du succès financier dans ce monde en perte de repères, premièrement, c'est de travailler fort avec le but de rendre son travail excellent et de rechercher une bonne réputation d'être honnête et intègre. On veut être aussi une personne sage qui recherche ce qui est bien et juste dans l'acquisition de sa richesse. Entre autres, par rapport à ses économies, au cas qu'il y aurait des imprévus dans notre vie. Une personne sage dépense avec discrétion et retenue, évitant ainsi de s'endetter. Et la personne sage rend au Seigneur avec joie une partie de son revenu et de son temps. Il n'y a pas de mal à être riche, mais l'amour de l'argent est un péché. Il n'y a pas de mal à être pauvre, mais gaspiller notre argent pour des choses futiles l'est. Donc, la Bible nous appelle donc constamment à la sagesse dans la gestion de notre argent. Pour conclure, j'avais posé une question à l'introduction. C'était, comment peut-on être sage avec notre argent? La réponse à celle-ci se retrouve dans Proverbe 1, 7. C'est de reconnaître l'autorité du Seigneur et l'ABC de la sagesse. Seuls les imbéciles méprisent les enseignements et les avertissements des sages. C'est vrai pour les paroles, c'est vrai pour nos relations, c'est vrai pour notre argent. Il faut reconnaître l'autorité du Seigneur et ses enseignements dans sa parole. Il ne faut pas mépriser les conseils qu'on retrouve dans la parole de Dieu parce qu'ils sont sous l'autorité du Seigneur. Au fond, à quoi cela me sert-il d'être triste si je passe à côté de la principale richesse du monde, qui est de connaître celui qui m'a donné le souffle de vie, de connaître notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus n'a rien épargné pour nous réconcilier à Dieu par son sacrifice glorieux à la croix. Dans Corinthiens 8, 9, il est écrit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. » Je trouve que c'est vraiment le plus bel exemple de générosité et de la façon qu'on peut, des principes de sagesse, que Jésus lui-même en est un modèle. Donc maintenant, ce n'est pas juste le fait d'observer les principes de sagesse pour vivre une vie heureuse qui doit devenir notre cible, mais la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est par cet exemple que nous sommes inspirés à nous épanouir dans cette vie. Dieu s'est fait chair afin que nous soyons unis à lui par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Galates 2:20, il est écrit, « De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, car ma vie actuelle, ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. » Il a donné sa vie. Quel geste de générosité! C'est le plus grand don qu'on peut voir dans la parole, un des plus grands dons qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Prions. Oui, merci Seigneur pour ces principes par rapport à l'argent. On te demande de nous donner la sagesse, oui, de les comprendre, mais aussi d'être obéissant dans l'application de ces principes. Oui, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse être, qu'on puisse travailler pour ceux qui sont aptes, pour gagner nos revenus de façon honnête. Fais en sorte, dans la mesure du possible, qu'on puisse épargner pour pouvoir aider et être généreux envers ton œuvre, envers l'œuvre du Christ et envers nos frères dans le besoin. Oui, Seigneur, on te demande d'être sage dans la gestion de nos dépenses et dans la gestion de nos dettes personnelles. Oui, Seigneur, fais en sorte qu'on puisse les éviter ou les rembourser le plus rapidement possible. Merci que ces principes sont toujours d'actualité en 2017 et peuvent être enseignés dans les programmes d'enseignement universitaire ou cégep, peu importe. C'est vraiment des principes de base d'une saine gestion financière et d'une sagesse infinie. Et tout cela au beau nom de ton Fils Jésus. Amen.
Demandant au Seigneur d'être maître de toute notre vie, de nos mains, de nos pieds, de nos voix, de notre portefeuille aussi, on parle de notre argent, de notre art, notre volonté. Chantons ce chant comme une expression du fait qu'on veut se donner tout entier à Dieu, nos finances incluses. vous laisser avec un passage. Philippiens 4, on était dans Philippiens tantôt pour la fin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, non pas vos désirs, comme Mario disait, mais à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Passez une bonne semaine et on se revoit dans 3 semaines, dans 4 semaines. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Mais l'Église a toujours lieu, hein? La semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.